À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, c'est presque une émission spéciale. C'est cette aventure absolument phénoménale qui est arrivée à un juif très sympathique du siècle dernier et qui s'est converti subitement, un peu comme Saint Paul s'est converti sur la route de Damas il y a 2000 ans. Et cet héritier de Saint Paul, si on peut dire, qui était un banquier, un jeune banquier de 27 ans, de Strasbourg, français, quoi, s'est subitement converti à Rome en entrant dans une église qui est très connue maintenant, Sant'Andrea delle Frate, en plein cœur de Rome, où j'aime beaucoup aller quand je suis à Rome, assister à la messe ou à prier devant cet hôtel, où la Vierge lui est apparue de façon absolument phénoménale, et ça a ébranlé tout Rome à ce moment-là. C'était un 20 janvier, c'est l'anniversaire, 1842, que ce miracle extraordinaire est arrivé. Les Dominicains de Saint-Maximin, un très grand couvent de Dominicains qui existait autrefois, je ne sais pas s'ils l'ont encore, j'espère que oui, dans le Var, dans le sud de la France, entre Marseille et Nice, eh bien, les Dominicains de Saint-Maximin publiaient, ou publient toujours, je l'espère, la Revue du Rosaire. Moi, j'ai un numéro qui date de 1954. C'est intitulé « Le converti de la médaille miraculeuse, Alphonse Ratisbonne ». Et, au début de cette réédition, si on peut dire, d'un document du siècle dernier, il y a un texte de Monseigneur de Ségur, qui est le fils de la comtesse de Ségur, dont je vous ai parlé, là, le 2 septembre. Et puis, dans son introduction, il dit « Le fait de la conversion de Monsieur Ratisbonne n'est ignoré de presque aucun chrétien, mais les détails de cette conversion miraculeuse sont oubliés de presque tout le monde, et on sait qu'entré juif à Rome, il en sortit catholique à la suite d'une apparition de la Sainte Vierge Marie. Qu'il fut admis dans la compagnie de Jésus, oui, c'est fait jésuite, et qu'il la quitta quelques années après avec l'assentiment de ses supérieurs pour se consacrer à la conversion de ses anciens coreligionnaires, c'est-à-dire qu'il a participé à la fondation avec son frère Théodore, qui s'était converti avant lui, de nombreuses années avant lui, à la fondation de la congrégation de Notre-Dame de Sion. On a eu pendant un certain temps des sœurs et des prêtres de Notre-Dame de Sion à Montréal. Je crois qu'il n'en reste plus. Mais ils ont été très nombreux à travers le monde. Il y avait beaucoup de juifs dans cette congrégation admirable. Et Monseigneur de Ségur dit, il partagea dès lors les travaux de son frère, le père Théodore Ratisbonne, fondateur de la congrégation Notre-Dame de Sion, passa la plus grande partie de sa vie en Terre Sainte. Oui, il est allé vivre en Palestine, en Israël aujourd'hui. Et il y a des œuvres qui perpétuent sa mémoire là-bas, toujours. Et c'est lui qui a élevé sur l'emplacement de l'ancien prétoire de Pilate, le sanctuaire de Lecce Homo. Puis enfin, bien, il est mort saintement à Jérusalem, à 70 ans, un 6 mai 1884. C'est vraiment un Saint Paul moderne. C'est un personnage extraordinaire. Monseigneur de Ségur raconte assez bien ce qui s'est passé. Et dans cette revue, bien, on publie les récits même de Alphonse Ratisbonne, le père Alphonse Ratisbonne, et de M. Théodore de Bussière. Parce que c'est Théodore de Bussière, un ancien protestant, qui l'a rencontré à Rome par l'entremise de quelqu'un d'autre, de Gustave de Bussière, qui était son ami. Et puis, ils se sont promenés à Rome, mais c'est au cours de ces promenades que la conversion est arrivée. Le 20 mai, je le rappelle, 1842. On raconte, Alphonse Ratisbonne raconte d'ailleurs, qu'il est sur la place d'Espagne à Rome, Piazza Spagna, là. Et puis devant la Trinité des Monts, vous connaissez ça probablement, si vous êtes allé à Rome, c'est tellement extraordinaire, tout le monde va là. Et Alphonse a conversé avec un ami à une terrasse de café, ça l'a mis en retard avec son rendez-vous avec M. de Bussière, qui habite à 10 minutes de là. Un peu avant 1 heure, Il sort à sa rencontre, il descend la Via del Condotti, quand on tourne le dos à la place d'Espagne, là. S'en va vers la maison de son ami, mais Théodore de Bussière a pris les devants, il s'en vient en calèche, dans sa propre calèche. Et puis c'est un baron, d'ailleurs. Mais c'est un converti du protestantisme, alors il est un peu... disons pas fanatique, mais il est un peu spécial et trop enthousiaste peut-être. Mais son enthousiasme va aider à la conversion de ce juif remarquable. Alors, sortant du café, note Alphonse Ratisbonne, je rencontre la voiture de Monsieur Théodore de Bussière. Et Théodore de Bussière écrit lui-même de son côté, parce qu'ils ont raconté tous les deux, quand je vous ai dit ce qui s'est passé. Il dit, mais voici Ratisbonne qui descend la Via Condotti. Il viendra avec moi. Il m'attendra quelques minutes et nous poursuivrons notre promenade. Le temps était magnifique et j'acceptais avec plaisir, note Alphonse dans son récit. Tout le récit, c'est très intéressant à lire parce qu'il y a toutes sortes de petits détails comme ça. Alors, Monsieur de Bussière, le baron, il a dit, permettez-moi seulement de m'arrêter quelques instants à l'église Sant'Andrea delle Frate, où j'ai une affaire à régler. Et puis, Alphonse, dans son texte, Alphonse Ratisbonne, il traduit Saint-André des Frères par confusion, parce que le nom italien n'est pas Dei Fratelli, mais Delle Frate. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ce Delle Frate? Je vous le dis, parce que le mot va revenir souvent. Ça veut dire des broussailles. Alors, Alphonse Ratisbonne ne sait pas trop ce que M. de Bussière veut faire dans cette église. Donc, l'église dite des Broussailles est toute proche, 250 mètres. La voiture longe la belle colonne de l'Immaculée, là. C'est fantastique, cette histoire-là. Puis, les bâtiments de ce qu'on appelle la propagande, c'est-à-dire la congrégation des missions pour propager la foi. C'est ça que ça veut dire, propager la foi dans le monde. C'est des beaux bâtiments, ça. Puis, en descendant de voiture, Alphonse Ratisbonne... raconte que Théodore me proposa de l'attendre dans la voiture, mais je préférais sortir pour voir cette église. Bon, c'est un bon juif, il veut voir l'église. De toute façon, il est à Rome, il veut visiter ça. Mais il en veut assis à l'église à cause de la conversion de son frère qui s'est fait prêtre. Et ça, ça l'enrage. Alors, les deux hommes entrent dans l'église, et puis Alphonse Ratisbonne ignore encore ce que Théodore de Bussière vient faire ici. Et près de l'entrée, il aperçoit une enceinte funèbre. C'est-à-dire une espèce de catafalque, si vous voulez, avec des draps noirs et toutes sortes d'affaires, c'est des funérailles. Alors, il dit, pourquoi ces préparatifs? Et l'autre lui dit, oh, c'est pour un de mes amis, le comte de la Ferronnais. Sa mort subite est la cause de cette tristesse que vous avez dû remarquer en moi depuis deux jours. C'est un homme qui est mort absolument subitement, en un clin d'œil, mais j'ai pas le temps de vous raconter tout ça. Et Alphonse dit, je ne connaissais pas Monsieur de la Ferronnais, je ne l'avais jamais vu, et j'éprouvais seulement une peine assez vague, que l'on ressent toujours à la nouvelle d'une mort subite. Alors, Théodore de Bussière a parlé d'un ton neutre, Alphonse Ratisbonne ne mesure pas la profondeur de sa peine, puis alors il se met à se promener dans la nef, le juif. Son regard, froid et indifférent, semble dire, cette église est bien laide. Raconte-t-on. Et cependant, précise Alphonse Ratisbonne, il dit, « Monsieur de Bussière me quitta pour aller retenir une tribune destinée à la famille du défunt pendant les funérailles. » Et puis, Monsieur de Bussière dit, « Ça va prendre deux minutes, ce sera pas long. » Qu'est-ce que c'est que la tribune? Je vous l'explique, ça peut être intéressant, c'est un détail. On appelle ça à Rome un corretto. C'est une tribune latérale qui est haut placée, telle qu'on en trouve dans presque toutes les églises d'alors. Puis c'est destiné au roi, au noble, et puis pendant les funérailles, comme ça, de gens assez distingués, n'est-ce pas? Alors la famille se place là. Bon, mais tout va bien. Et puis là, il est maintenant un peu plus d'une heure. Alphonse Ratisbonne doit s'impatienter. Alors Théodore de Bussière le cherche du regard. Il l'avait laissé du côté droit, puis il le voit plus. Il l'avait laissé debout. Il regardait l'église autour, puis ça ne l'intéressait pas tellement. Mais voici que du côté gauche, qu'on appelait à l'époque le côté de l'Évangile, il y a une silhouette qui est agenouillée, prostrée, comme écroulée sur la balustrade de la deuxième chapelle, celle de l'ange gardien. Cette attitude de prière profonde ne ressemble pas du tout à cet ami récalcitrant avec lequel il s'était disputé plusieurs fois durant les jours précédents. Et pourtant... C'est son costume. C'est son habit. Monsieur de Bussière approche. Et c'est bien lui, c'est Alphonse Ratisbonne, qui ne l'a pas entendu venir et qui semble totalement absorbé. Il dit, je m'approcherai de lui, je le pousse 3 ou 4 fois avant qu'il s'aperçoive de ma présence. Et Alphonse Ratisbonne raconte, je ne pouvais répondre à ses questions précipitées, mais enfin, je saisis cette étrange médaille qu'il m'avait mis autour du cou, presque de force, et que j'avais laissée sur ma poitrine. Je l'ai baisée, cette médaille. C'est la médaille miraculeuse, la médaille de la Sainte Vierge. Je baisais avec effusion l'image de la Vierge rayonnante de grâce. C'était bien elle. Je ne savais où j'étais. Je ne savais si j'étais Alphonse Ratisbonne ou un autre. J'éprouvais un si total changement que je me croyais un autre moi-même. Je cherchais à me retrouver, je ne me retrouvais pas. La joie la plus ardente éclata au fond de mon âme. Je ne puis parler. Et enfin, c'est là, c'est Théodore de Bussière, l'ancien protestant qui parle. Il tourne vers moi un visage baigné de larmes, les mains jointes, et me dit avec une expression impossible à rendre, « Oh, comme ce monsieur de la Ferronnais a dû prier pour moi, c'est ce que vous m'avez dit, n'est-ce pas ?» J'étais moi-même stupéfait d'étonnement. Je sentais ce qu'on éprouve en présence d'un miracle. Mais que s'était-il donc passé pour Alphonse Ratisbonne? Eh bien, vers 13h, vers 1h, là, pendant 5 à 6 minutes que dura la visite de Théodore de Bussière au réfectoire des moines, là, qui étaient les administrateurs de cette paroisse de Saint-André, mais ces récits font l'impasse là-dessus. Alphonse ne dit que des préambules. Il dit « L'église tout entière disparue. Je me sentis saisi d'un trouble inexprimable. Je levai les yeux. Toute l'église était couverte et obscurcie comme par un voile. Une seule chapelle avait, pour ainsi dire, concentré en elle toute la lumière. Et après cela, le discours des failles devant l'ineffable, il dit, je ne vis plus rien, ou plutôt, mon Dieu, je vis une seule chose. Comment serait-il possible d'en parler? Oh non, la parole humaine ne doit pas essayer d'exprimer ce qui est inexprimable. Toute description ne serait qu'une profanation. J'étais là, prosterné, baigné dans mes larmes, le cœur hors de moi-même, quand Monsieur de Bussière me rappela à la vie. Et tout cela, ce sont évidemment des états d'âme, avec des suspensions, des points de suspension, mais qu'est-ce qu'il a vu? Même en collationnant les nombreux témoignages recueillis par ses amis dès les premières heures, eh bien, on ne put rassembler que des bribes éparses, une lumière qu'il a vu, comme Bernadette à Lourdes ou d'autres voyants, et dans cette lumière, debout sur l'autel, la Vierge, telle qu'elle figure sur la médaille miraculeuse, les mains ouvertes, rayonnant de gloire, grande, brillante, vivante, pleine de majesté et de douceur. Très belle, disait-il, bellissima, c'est ce qu'il dit dans son procès romain. Il sera baptisé quelques jours plus tard, car il a tout compris. Alors, ce pauvre Alphonse Ratisbonne, dans un sens, 27 ans, juif, comme ça, plutôt athée, parce qu'il croyait vraiment pas en Dieu, mais fier d'être d'une famille juive très réputée de Strasbourg. Mais c'est rien dire d'autre. Très belle, bellissima. Puis il parle de son bouleversement total, sincère, cohérent. Où l'ont trouvé ses amis? Et l'enchaînement qui résulte de tout ça, des témoignages les plus sûrs, et c'est le suivant. Je vais faire un résumé. Il dit, toute l'église s'obscurcit et disparaît comme sous un voile, tandis qu'une lumière vive se concentre en face de lui, au-dessus de l'autel, là où se trouvait le tableau de l'archange Saint-Michel. Et c'est dans cette lumière qu'il voit apparaître la splendeur de la mère du Seigneur Jésus. Comment était-elle, lui a-t-on demandé, maintes et maintes et maintes fois? Il répond toujours comme la médaille miraculeuse. Il peut pas faire de description. Cette identification dispense de toute description. Il peut pas. Il souligne seulement la différence. Elle est vivante, lumineuse, indescriptible. De la main droite, elle lui fait signe de venir s'agenouiller tout près quand elle lui est apparue. Le voilà plus proche donc de la lumière. Il tente de lever les yeux vers le visage de la femme bénie entre toutes les femmes, mais la majesté de cette femme les lui fait baisser. Aurait-il au premier moment entrevu le regard extraordinaire qui l'appelait? Théodore de Bussière, qui l'a conduit là, l'insinue, mais dans un seul de ses témoignages, et ce n'est là qu'une interprétation au fond, pas sûre. Il n'y a pas de recoupement qui confirme ça. Selon les dires constants d'Alphonse Ratisbonne, je vous rappelle, 27 ans, ses yeux n'ont pu accéder au visage miséricordieux de la Vierge, qui pourtant l'attire. Il reste comme sur un seuil de lumière. Il essaie une seconde fois, puis une troisième, mais chaque fois cette gloire d'un autre monde fait retomber son regard au niveau des mains étendues et rayonnantes, et tel est le signe qui lui est destiné. Ce n'est pas encore le temps de la vision bienheureuse qui survient après notre mort, quand enfin nous sommes admis au ciel. Il lui reste une longue route à faire et son lot aujourd'hui, bien, c'est cette lumière prometteuse, hein? Elle lui suffit, elle le comble. Il dit, j'ai fixé mes yeux sur ses mains et je vis en elle l'expression du pardon et de la miséricorde. En présence de la très sainte Vierge, bien qu'elle n'ait dit aucune parole, je compris l'horreur de l'état dans lequel je me trouvais, la difformité du péché, la beauté de la religion catholique. En un mot, je compris tout. C'est ce qu'il déclare lors de ce procès qui a été fait, un procès, entendons-nous, une espèce d'examen, si vous voulez. Ce tout, quand il dit « je compris tout », le remplit d'une plénitude de lumière qu'il a souvent exprimée en disant d'une phrase qui résume tout, il dit « elle ne m'a rien dit, mais j'ai tout compris ». Et l'apparition n'a pas eu besoin de se nommer, il l'a reconnue, la médaille, transfigurée, c'est une présence. Un regard de Marie suffit pour retourner une âme, pour bouleverser toute une existence, pour convertir une mauvaise tête, pour faire un bon cœur d'un mauvais cœur. Faites silence et restez sous le regard de Marie, prêchera-t-il plus tard. C'est ce qu'il dit, ce sont ses paroles, tout ça. Hein? Il n'a pas vu ce regard, semble-t-il, mais il en a été pénétré. Il le comprend à travers ses mains rayonnantes. Notre-Dame n'a rien dit. Elle ne s'est exprimée que par geste. C'est le signe d'approcher, de s'agenouiller, puis son approbation maternelle, ça lui suffit. Le geste et la personne ne font qu'un avec le rayonnement de gloire. Et là, le cœur d'Alphonse Ratisbonne, cet homme solide et intelligent et remarquable, en a été rempli pour la vie sans qu'il sache l'exprimer. Qu'est-ce qu'on peut dire, donc, de l'amour spirituel, l'amour? Et comment parler de la lumière? Ce qu'il perçoit, mais ce qu'il n'explicite pas, comme l'ont fait candidement là, les petits voyants de Fatima, c'est que cette lumière bienheureuse, c'est Dieu même, dont la gloire illumine Marie, car la lumière vient de Dieu. C'est lui qui transfigure la femme revêtue du soleil, comme on dit, dans l'Apocalypse, au chapitre 12. Il appelle Alphonse Ratisbonne à la même transfiguration par la grâce divine, à devenir ce chrétien lumineux. Cette grâce qui est la vie même de Dieu communiquée aux hommes, mais nous pouvons être des chrétiens lumineux, je vous l'ai tout dit hier dans cette émission, sur la spiritualité des laïcs. La lumière est à la fois visible et symbolique. Exprime Dieu aux yeux du corps, mais davantage aux yeux de l'âme. Comme il écrit, c'est ce qu'il dit à une religieuse, « Expliquez si vous le pouvez un rayon de soleil, c'est impossible. Eh bien, pour moi, c'est la même chose. » Et on me demande quelquefois ce qu'est le 20 janvier. C'est une lumière dans une lumière, et dans cette lumière, Sion, Jérusalem. La gloire de Dieu avait promis de rayonner en son peuple, en Sion, la cité sainte. Or, c'est en Marie qu'elle se concentre, c'est elle. Ni parole, ni révélation. Alphonse Ratisbonne n'a pas reçu un nouveau savoir, mais une lumière qui déjà éclaire tout autrement. Il lui fait pressentir et désirer Ce qu'il ignore encore et qu'elle va bientôt éclairer, tout ça se fait très très vite. Quant au sens de cette présence, les mots qui lui viennent, c'est, ça revient tout le temps, le pardon, tendresse, miséricorde. C'est étrange de revenir à la vie ordinaire pour lui. Non pas comme du rêve à la réalité, mais du plus réel au moins réel. Je vous rappelle, je vous répète que la réalité des choses, c'est le monde invisible. C'est ça le réel. Dieu, la Vierge, les saints, le ciel, dans lequel nous sommes plongés, mais nos yeux de chair ne le voient pas. Et c'est le monde invisible qui compte. C'est pour ça qu'on court à la messe tous les jours, pour rendre gloire à Dieu, notre Père. Et s'unir à son Fils bien-aimé, et s'offrir à lui dans l'unité de l'Esprit Saint, c'est le plus grand geste qu'on peut faire chaque jour, la très sainte Eucharistie. Heureusement, Théodore approche perplexe. Théodore de Bussière. Et après avoir examiné la fameuse tribune, il cherche du regard son compagnon, là, puis c'est là qu'il le trouve. Il dit, je l'ai poussé 3-4 fois avant de qu'il s'aperçoive de ma présence. Il dit, je relève Ratisbonne, je le guide, je le porte pour ainsi dire vers la sortie. Évidemment, je lui demande ce qu'il a, où il veut aller. Il dit, conduisez-moi où vous voudrez. Après ce que j'ai vu, j'obéis à tout. Et je le presse de m'expliquer. Il ne peut pas. Son émotion est trop forte. Il tire de son sein, de sa poitrine, la médaille miraculeuse, la Sainte Vierge, et il la couvre de baisers, de larmes, et je le ramène chez lui, malgré mes instances, je ne puis obtenir de lui que des exclamations. « Oh, que je suis heureux, dit-il, que Dieu est bon, quelle plénitude de grâce et de bonheur, que ceux qui ne savent pas sont à plaindre. » Puis il fond en larmes en pensant aux mécréants. Enfin, il me demande s'il n'est pas fou. « Mais non, s'écrie-t-il, je suis dans mon bon sens. Mon Dieu, je ne suis pas fou. Tout le monde sait bien que je ne suis pas fou. » C'est le premier souci qui en son retour au monde ordinaire, évidemment, où l'autre monde n'a pas sa place, et il mesure combien la sagesse de Dieu est folie pour le monde. Hein? Le jour où on comprend un peu de tout ça, là, on devient fou aux yeux du monde. C'est évident. L'événement qui le submerge est invraisemblable, inacceptable pour quiconque. Pour celui qu'il était, il y a quelques minutes à peine, quand il regardait cette église en touriste blasé. Alors ils remontent en voiture tous les deux, puis parcourent un peu plus d'un kilomètre, presque silencieusement, tout au long du Corso, la grande avenue de Rome, et les voilà au Jésus. Quelques minutes avant 13h30, ils vont voir les jésuites. Il va rencontrer le général des jésuites. Si vous voulez en savoir plus sur Alphonse Ratisbonne, eh bien, je vous recommande très fortement les quatre livres même, de l'abbé René Laurentin, paru aux éditions de l'Œil. Il y a d'abord le 20 janvier 1840, Vie Alphonse Ratisbonne, Vie authentique, c'est un petit livre qui n'est pas très gros, même pas 100 pages, je crois. Non, même pas 100 pages. Et puis, c'est la vie authentique, la jeunesse, etc. Et puis, il y a, pour accompagner le récit, un autre volume du même genre, toujours Alphonse Ratisbonne, Vie authentique, la jeunesse, mais ce sont les preuves et les documents. Alors, ça fait 2 petits volumes de 100 pages. Et là, vous allez vers 2 gros volumes de plus de 200 pages. Le 20 janvier 1842, Marie apparaît à Alphonse Ratisbonne. Et puis, le 2e volume, c'est preuves et documents sur l'apparition de Marie à Alphonse Ratisbonne, 20 janvier 1842, toujours aux éditions de l'Œil, par l'abbé René Laurentin. Ça veut dire 4 volumes, 2 de 200 pages, 2 de moins de 100 pages. Mais vous avez aussi des tas de photos, des centaines de photos. C'est extrêmement intéressant, passionnant. Passionnant à lire. Vous lirez ça dans un enchantement, ça vaut bien le prix, je crois. Alors, ils sont donc rendus au Jésus, c'est-à-dire chez les jésuites, en plein cœur de Rome. Et puis, après déjeuner, ben, il y a les pères jésuites là, qui conversent dans la salle de communauté. Le père de Villefort raconte, à la fin de notre récréation, c'est-à-dire 1h30, après-midi, je m'entends appeler à la porterie. J'y descends et je trouve Monsieur Théodore de Bussière et Monsieur Ratisbonne qui étaient arrivés depuis quelques minutes. Aussitôt qu'il me vit, Monsieur de Bussière accourt et en me disant d'une voix tremblante, « Il est converti. Il a vu la Vierge. » Entrer au salon. Alors, nous avons récité tous les trois une prière, un pater, puis je vous salue Marie, en action de grâce. Puis nous nous sommes assis et Monsieur le baron de Bussière a invité Monsieur Ratisbonne à me raconter ce qui était advenu. Il avait peine à parler comme un homme dépassé par une multitude de sentiments brûlants. Alors il supplie l'infirmité de sa parole, pauvre, en tirant à nouveau la médaille de son vêtement. C'est sa réponse, qui est toute petite sa réponse, la médaille, aux questions qui le dépassent. Le père de Villefort, le jésuite, insiste pour qu'il s'explique. Il fait un nouvel effort. C'est écrit, « Il me dit à plusieurs reprises, car son discours était interrompu par des larmes et l'émotion intense de ses sentiments. » Ça venait d'arriver quelques minutes avant. Il dit, « Je l'ai vu, je l'ai vu. J'étais depuis peu dans l'église quand soudain, je me sentis pressé par un trouble inexprimable. » Je levai les yeux et voici que toute l'église était couverte et obscurcie d'un voile. Son récit entrecoupé s'achève par ces paroles. Elle ne m'a rien dit, mais j'ai tout compris. Et ici, le baron de Bussière se retire, sans doute pour laisser Alphonse Ratisbonne parler plus intimement aux jésuites. Seul avec le père de Villefort, Alphonse murmure avec une stupéfaction reconnaissante, « Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce! Il y a une heure, je blasphémais encore contre Dieu, et voici qu'il me traite avec tant de bonté. J'aurai grande pénitence à faire pour tant de péchés. » L'émotion s'apaise. Alphonse Ratisbonne, je vous rappelle, 27 ans, juif, quelques minutes plus tôt, mais toujours juif, mais acceptant le Messie, disons, ce serait plus juste. Parle avec un calme tout intérieur. Le père de Villefort, le jésuite, propose « Je vais vous conduire au père Rosaven. » Ce père avait commencé sans succès les conversations religieuses avec Alphonse. Dans, lors d'une réception, ça n'avait pas duré longtemps, mais il est sorti. Alors, Théodore de Bussière qui revient, s'informe, mais par contre, le père Rotan, général des jésuites, est disponible. Il est 2 heures à ce moment-là. Le numéro 1 de la compagnie raconte ainsi sa visite. C'est ce que raconte le général des jésuites. Monsieur de Bussière se présenta. Il semblait hors de lui et m'avisa en peu de mots que Monsieur Ratisbonne était converti grâce à une vision qu'il avait eue de la Vierge Marie tout à l'heure. Monsieur de Bussière introduit ensuite dans ma chambre M. Ratisbonne, que j'ai invité à s'asseoir. Je le voyais pour la première fois. Je perçus en lui une extraordinaire commotion. Cela se manifestait aussi dans l'état de ses vêtements. Il tenait au dehors la médaille de France, suspendue à son cou. C'est la médaille miraculeuse. Pour ma part, sans montrer d'enthousiasme, je fixai mon attention sur sa personne. J'entendis alors les quelques paroles qu'il me dit de manière entrecoupée. Il exprimait son admiration et son action de grâce pour tant de miséricorde reçue de Dieu. Alors, Alphonse Ratisbonne lui redit les mêmes choses qu'au père de Villefort. « Il y a une heure, je blasphémais la religion du Christ et maintenant, etc. » Il lui parle de la croix qui avait obsédé sa nuit précédente dans un rêve. C'est curieux. Il en découvre maintenant le sens austère et lumineux, puis se tournant vers M. de Bussière, il ajoute, « De cela, je ne me suis souvenu qu'en ce moment, et cette visite dura peu. Ratisbonne déclara, raconte le texte, déclara sentir un intime besoin de se retirer pour prier. Et secondant cette impulsion, nous sommes levés, continue le père Rotan, le général des jésuites, et au moment de nous séparer, je crus bon de lui dire, écoutez bien, c'est bien un bon général des jésuites qui parle, en cette plénitude de consolation, monsieur, préparez votre âme au temps où viendra la désolation, car quand elle viendra, il faudra vous rappeler la consolation passée. Préparez-vous à souffrir la croix. C'est le propre de tout chrétien. Ici, le père Autain prend sa Bible et lit le second chapitre de l'Ecclésiastique, c'est dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament. Il parle à un juif, tout récemment converti. Il lui dit, enfant, il lit, enfant, si tu t'avances pour servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et sois ferme, et ne te trouble pas au moment du malheur. Attache-toi à lui et ne t'écarte pas, afin d'être grandi lors de ton dernier jour. Tout ce qui arrive, accepte-le. Et dans les vicissitudes de ton humiliation, sois patient. Car c'est au feu qu'on éprouve l'or, et les hommes agréés au creuset de l'humiliation. Aie foi en lui, et il te viendra en aide. Fais-toi des chemins droits et espère en lui. Quel beau texte de la Bible. Au sortir du Jésus, que faire? Bien, tout simplement reprendre la promenade archéologique commencée à Sant'Andrea de l'Efrate, où le miracle a eu lieu une heure plus tôt. Elle s'annonce sur le ton ironique des jours précédents. Mais elle s'annonçait comme ça. Mais ça sera plus ironique maintenant. Il ne se moquera plus des monuments religieux, des églises et des choses. Cet Alphonse Ratisbonne. Que c'est différent maintenant! Tout est changé en une heure. Je le conduis d'abord, Monsieur de Bussière, je le conduis d'abord à la chaire basilique de la Vierge Sainte-Marie Majeure. Puis à Saint-Pierre de Rome. Impossible de rendre ses transports de joie lorsqu'il fut dans ses églises. Écoutez bien. Ah, me disait-il en me pressant les mains, je comprends maintenant l'amour des catholiques pour leurs églises et la piété qui les porte à les orner et à les embellir. Comme on est bien ici. On voudrait n'en jamais sortir. Ce n'est plus la terre, c'est presque le ciel. C'est vrai que c'est le sentiment qu'on a à Saint-Pierre de Rome quand on entre. Ça a beau être immense et d'une richesse fantastique, il y a comme une espèce d'espace sacré, admirable, qui nous porte à nous penser au ciel. Et on ne peut que se diriger vers la chapelle du Saint-Sacrement. Et c'est ce qu'ils font, la présence réelle le saisissait, l'écrasait. En priant devant Saint-Sacrement, Alphonse Ratisbonne a failli s'évanouir. Et il a écrit dans ses textes, c'est horrible de se tenir en présence du Dieu vivant sans être baptisé. Il alla chercher refuge, raconte-t-on, dans la chapelle de la Vierge. Et là, je n'ai plus peur, sous la protection d'une immense miséricorde. Alors il prit devant le sépulcre des apôtres Pierre et Paul, et comme je lui rappelais, dit Théodore de Bussière, comme je lui rappelais la conversion de saint Paul, il en fut extrêmement ému et versa d'abondantes larmes. Connaissez ça, la conversion de saint Paul qui est à cheval? Il s'appelle Saul, il est juif convaincu, attaché au judaïsme avec passion, il veut persécuter les chrétiens qui sont cette petite secte idolâtre qui adore un homme, Jésus. Il le rend veut, il s'en va à Damas et Jésus lui apparaît. C'est-à-dire, il entend la voix de Jésus qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu ? » Puis il tombe à son cheval, il devient aveugle. Mais c'est tout intérieur et là, intérieurement, il voit. Il va devenir saint Paul, le plus grand saint de son époque. C'est absolument phénoménal, saint Paul. Eh bien alors, Alphonse retrouve dans ce récit sa propre conversion, soudaine, lumineuse, mais si douce pour lui, puis il prie longuement. Et M. de Bussière bien ramène M. de Ratisbonne à l'hôtel Cerny, où il loge, et après cette promenade qui a calmé l'excès de son émotion, il va pouvoir se reposer. Se reposer. Mais il faut qu'il écrive. Et il décide d'écrire à sa fiancée. Il y a une fiancée de 16 ans. C'est pour ça qu'il fait un long voyage, pour la laisser vieillir un peu. Et comme il a l'argent, il peut se permettre d'aller très loin. Il veut aller à Malte, il veut aller à Constantinople. Mais il est rendu à Rome qu'un peu comme par accident, parce qu'il était à Naples. Et là, il écrit à sa fiancée, qui est toute jeune, elle a 16 ans, mais c'est une fille très sérieuse, c'est une nièce d'ailleurs, c'est curieux, il marie sa nièce. C'est une jeune fille absolument admirable, il lui dit « Ma bonne amie, tu sais que j'ai toujours manifesté un vif enthousiasme pour les grandes et belles choses, soit dans mon voyage en Suisse, devant les imposants spectacles de la nature, soit dans mon voyage en Italie devant les débris de l'histoire du monde. Ce sentiment que tu appelles poésie, pauvre ami, parce que, n'ayant point de religion, tu es obligé de l'appeler ainsi. Ce sentiment, c'est à Rome que je puis le satisfaire. Rome, ce centre de tout ce qui est beau, de tout ce qui est éternel. Remercions ensemble la bonté infinie du ciel. Je vous lis des passages de sa lettre. Je ne peux pas tout lire, c'est une longue lettre. Rempli de gentillesse quand même. Il ajoute à un moment donné, « Quant à mon instruction, à laquelle je ne songeais pas beaucoup en partant de Strasbourg, je puis te jurer, ma chère Flore, qu'à Rome, sans maître, sans livre, j'ai plus appris en quelques jours, je puis même dire en quelques heures, que je n'aurais appris dans ma vie entière si je n'y étais pas venu. Joins tes prières aux miennes, mon ami, pour rendre grâce à Dieu. » Puis il écrit aussi à son oncle Louis, parce que ses parents sont morts. Alors il écrit à son oncle Louis, des choses très intéressantes. Son oncle Louis, c'est un homme réaliste. Alors, il écrit un court préambule. Il commence d'un trait plus vite qu'à sa fiancée. « Mon cher oncle, afin que tu ne sois pas effrayé du préambule de cette lettre, je commence par te dire que l'événement qui en fait l'objet me rend le plus heureux des hommes, ce qui ne veut pas dire heureux comme on l'est ordinairement ce monde, mais heureux d'une félicité qui sera éternelle. » Il insiste alors sur les sentiments anticatholiques qui l'animaient. « Ne suis-je pas de toute la famille celui qui a le plus persécuté mon frère Théodore, son frère Théodore qui est devenu catholique et prêtre? Ne suis-je pas un de ceux qui ont travaillé le plus ouvertement à la régénération des Juifs? » Alors, à travers ces préambules, là, Alphonse Ratisbonne en arrive à l'apparition. Il n'ose la raconter. Il est l'esprit critique, il bifurque, il dit « Je suis trop ému pour pouvoir te raconter un miracle dont je n'ai été qu'un misérable instrument. Je te copierai un passage de la lettre que M. de Bussière a écrit à l'abbé Ratisbonne, son frère, pour lui faire part de ce fait que mon frère Théodore lui-même trouvera inattendu. » Et là, quant à sa conversion, il exprime sans embâge et il dit à son oncle, il ose dire ça à son oncle juif qui va lui répondre de façon très fâchée, « Mais cette famille juive admirable saura comprendre avec le temps, assez rapidement. C'est ça qui me touche beaucoup chez cette famille juive de Strasbourg. » Alors il écrit donc à son oncle, « Malgré tout ce que cet événement a d'incroyable, tu peux deviner, mon cher oncle, ce qui en est résulté. Je suis entré dans cette église aussi juif, je te le jure, que je pouvais l'être à Strasbourg durant tout le cours de ma vie, et peut-être plus encore. Et 5 minutes après, j'en sortais chrétien et catholique ardent, prêt à renoncer avec joie à toute chose en ce monde. » C'est tellement bouleversant, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé, un miracle? Écrit-il, direz-vous en riant, riez, riez, mes pauvres amis. Mais quand vous aurez assez ri, vous vous mettrez, je crois, à réfléchir, c'est ce qu'il dit à son oncle. Vous chercherez à trouver un motif à une semblable conversion, qui serait elle-même le plus grand des miracles si elle se fût opérée sans miracle. Riez, riez. Mais pour chacun de vous viendra une heure solennelle où vous ne rirez plus, où vous penserez sérieusement à ce que je vous dis aujourd'hui. » Alors, dans le même courrier, Alphonse Ratisbonne écrit une lettre plus brève à son frère prêtre, là, Théodore Ratisbonne, 14 ans plus vieux que lui. Il n'y raconte pas davantage l'événement, mais heureusement Théodore de Bussière, l'ancien protestant qui l'a amené à la conversion, là, est là pour le faire. Même pour son frère, sa plume, on dirait, se bloque. Et quand il arrive pour raconter ce qui est ineffable, à lui comme à son oncle, il veut manifester l'invraisemblance de sa conversion, non plus pour la rendre vraisemblable et crédible au frère qui saura bien le comprendre, mais pour manifester avec action de grâce l'ampleur du miracle. Il commence donc par une amende honorable, comme on dit, à son frère, prêtre, qu'il a combattu et honni plus que tout autre. Il dit, « Mon très cher frère, Dieu a voulu que toute ma vie, jusqu'à l'instant de ma conversion, ce ne fût qu'une série d'actes antichrétiens. Dieu a voulu que je fusse dans un concours de circonstances tel qu'il est impossible à qui que ce puisse être d'expliquer ma conversion subite autrement que par une force divine, par un miracle. Alors, il présente cette conversion invraisemblable à partir de son hostilité même à l'égard de son propre frère. S'étant identifié à l'apôtre Paul, converti sur le chemin de Damas, comme je vous ai dit, bien, il reprend le style, puis aussi la façon de raisonner de la deuxième épître aux Corinthiens. Alors, il imite un peu saint Paul, puis il écrit à son frère Théodore, « Qui t'a persécuté avec le plus d'acharnement, c'est moi. Qui s'occupait avec le plus d'activité du sort des pauvres juifs à Strasbourg, c'est moi. Qui proférait le plus de blasphèmes contre les catholiques et leur esprit de conversionnisme, c'est moi. Qui avait le plus d'indifférence en religion, c'est moi. M'accusera-t-on de lâcheté? Mais les juifs en France étant égaux à tous les autres citoyens, je puis rejeter ce reproche que personne ne me fera sérieusement. Est-ce par ambition? Mais en quoi? Quelle carrière se ferme donc devant moi si je reste juif? Est-ce par intérêt? Ce grand mobile du siècle présent? Mais tu sais aussi bien que moi, mon intérêt serait plutôt de rester juif. Est-ce par affection? Par une inclination peut-être secrète? Mais tu sais, toute ma famille sait à quel point j'aime ma fiancée, si digne d'être aimée. Alors, il s'arrête au dilemme qui en résulte et Flore, sa fiancée Flore, là, 16 ans, ou le cloître. Et après avoir évoqué d'autres invraisemblances de l'événement, il conclut, « Alors comment expliquer ma conversion de mon cher frère? Je te dirai dans une prochaine lettre toutes les circonstances merveilleuses qui l'ont précédé. Et sur ce point, il s'exécutera pas. » Cette tâche va rester pour lui insurmontable. Il est soulagé enfin de conclure sa lettre sans avoir violé le seuil indicible dont son frère me semblerait mériter la confidence puisqu'il est prêtre. J'ai trouvé hier, dans le premier livre religieux que j'ai jamais ouvert depuis que je suis au monde, cette phrase, « Une telle persuasion produite sans miracle serait elle-même le plus grand des miracles que l'on pourrait imaginer. » Adieu, mon bienheureux frère. Je t'ai causé bien du chagrin. Eh bien, pardonne à ton frère en Jésus. Et il signe avec le nom de la Sainte Vierge, Marie Alphonse. Le recteur du Jésus, des Jésuites, là, de l'église du Jésus, a fait appel à des grenadiers pour veiller au bon ordre, parce que c'est le jour du baptême, le 31, 11 jours après le miracle. C'est tôt le matin, ça fait moins de 11 jours. On attend une foule énorme, et au matin donc du 31 janvier, le cardinal Mezzofanti arrive de bonne heure au Jésus, parce que tout Rome est en émerveillement devant le miracle. Dès 8h30, le père de Villefort, le jésuite, puis le parrain Théodore de Bussière, évidemment, viennent prendre Alphonse dans sa chambre. Or, par une anticipation que personne ne peut expliquer, il est déjà revêtu du vêtement baptismal d'autrefois, une longue robe blanche de soie damassée, selon l'antique tradition du catéchuménat. Il tient à la main un chapelet où pend une médaille miraculeuse, qu'il regarde avec reconnaissance. Il est vêtu, comme on pourrait dire, de blanc lumineux, là, derrière sa barrière dans l'église. Alphonse est le point de mire de tous les regards, et Alphonse ne Ratisbonne, 27 ans, avec sa belle barbe, ne regarde pas cette foule qui le regarde. Il est au-delà. Il contemple la médaille du chapelet qu'il serre dans sa main droite. Face à la vaste enceinte aménagée autour de l'autel pour l'accueillir, il y a une élite de Rome, de toutes les sortes de pays, de la société romaine aussi, qui remplit déjà la foule, envahit progressivement le reste de l'église, et puis à 9h, le cardinal Padrizi, vicaire du pape pour le gouvernement du diocèse de Rome, fait son entrée. Un nombreux clergé chamarré précède de sa cappa magna de pourpre moirée au chant des psaumes prescrits. Les clercs du collège germanique, les Allemands, vêtus de soutane rouge qu'ils portaient à l'époque, jusqu'à tout récemment, ont été chargés de la musique. Puis arrivé à l'enceinte, le cardinal Parisi se recueille un moment. On le revêt de plus somptueux ornements d'autrefois, là, les ornements pontificaux. Et de là, il repart processionnellement vers l'entrée, crosse en main, mitre en tête. Les rites antiques du baptême commencent, et puis le catéchumène les accueille, prêt à tout dans la joie et la paix, hein. Et le cardinal trace une croix sur son front, puis dit le signe de la croix sur le front, sur les yeux, sur les oreilles, sur la poitrine, sur les épaules, car il va porter avec amour le joug de la croix, et enfin, il lui fait goûter le sel de la sagesse, et ce sont de longues prières. Et puis il y a des Italiennes qui s'exclament « Ah, Beato lui, qu'il est heureux, a quanto sei caro, que tu nous es cher !» Puis, toutes sortes de choses. Puis, arrivé dans l'enceinte préparée pour le baptême, là, Alphonse ratisse-bonne sa genouille, le cardinal fait les dernières interrogations, là, quel est ton nom? Il répond Marie. Ça existe en France, hein. Il y avait un abbé dans Calcutta qui s'appelait Don Marie de Fleuris, un comte. Alors, ce choix de nom s'est imposé à lui, si paradoxal, hein. Ça a l'air féminin, mais ça ne l'est pas. Parce qu'il y a des hommes, des femmes qui s'appellent Dominique, hein, ou Claude. Si je ne devais plus raconter que le fait de ma conversion, dit-il, un seul mot suffirait, le nom de Marie. Et cette évidence va durer jusqu'à sa mort. Quand je serai très mal, demande-t-il aux sœurs de Jérusalem. Bien plus tard, en 1884, vers le 6 mai, à la fin de sa vie, dites seulement Marie. Et ce mot descendra jusque dans mon cœur. Et selon sa volonté, ce seul Père Marie, les mots Père Marie figurent sur sa tombe à Ein Kerem, en Israël, en Palestine, comme le dernier mot de son action de grâce. L'eau coule sur son front. Un soupir d'ineffable bonheur s'est échappé de sa poitrine, note un témoin, et un sourire qui a passé comme un éclair. Et sur ses lèvres, lorsqu'il a relevé sa tête, encore toute mouillée des eaux du baptême, ce sourire perdure. Le reste est invisible. Alors toutes les barrières de l'Église se sont abaissées, puis au milieu des bénédictions, une multitude immense s'ouvrait comme un flot respectueux sur son passage. Il est catholique. Il est heureux. Et au moment de la communion, il était tellement anéanti par le sentiment intime de la présence divine qu'il a fallu le soutenir pour approcher de la table sainte, et ce n'est qu'avec le secours du père de Villefort, le jésuite, et de son parrain, monsieur de Bussière, qu'il a pu se relever après avoir reçu le corps du Christ. Un torrent de larmes inondait son visage. Il succombait sous le poids de toutes les grâces dont le Seigneur le comblait. J'eus un très clair sentiment, dit-il, mais non une vision, de la présence réelle de Jésus-Christ, tandis que je le recevais. J'eus besoin de l'aide du bras d'autrui pour retourner de l'autel à ma place. C'est un personnage extraordinaire, et à la messe aujourd'hui, on commence la messe en disant « Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi, car je suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés. Oui, enlève tous mes péchés. »